Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Litre Amour en compagnie de Sigurd Brinkmann et de
Clarisse Cosset.
Avant la chute du mur, Berlin-Ouest attirait des jeunes Françaises et Français qui souhaitaient fuir l'étroitesse de leur famille ou de leur milieu et se plonger volontiers dans le biotope alternatif de cette ville encore divisée. Le caractère provisoire de la ville abîmée, qui avait un moment attiré, s'est perdu peu à peu au fil des années 90 et de nombreux Français sont retournés alors en France ou sont partis dans d'autres pays. L'écrivaine Cécile Weisbrot a décidé il y a 20 ans de s'installer en partie à Berlin. Paris, sa ville natale, lui apparaissait très fermée, tandis qu'elle voyait en Berlin un lieu où les époques se croisaient.
C'est à Berlin qu'elle a écrit plusieurs de ses romans, Fugue, Caspar Friedrichstrasse et le recueil de textes Berlin ensemble. Le roman Destruction, paru en 2019, vit de la tension qui existe entre Paris et Berlin. Nous avons rencontré Cécile Weisbrot dans son appartement berlinois, dans le quartier de Schöneberg, en août, peu après la sortie de son nouveau roman Nevermore. Et comme la narratrice de Nevermore est une traductrice, nous avons également interviewé Karine Utendorfer. Elle a reçu le 25 septembre avec l'écrivaine franco-japonaise Ryoko Sekiguchi le prix de littérature première pour la traduction du livre Nagori. L'Institut culturel franco-allemand de Tübingen vient de créer ce prix qui récompensera chaque année des auteurs et autrices et leurs traducteurs et traductrices. Nous y reviendrons plus tard.
Nous allons tout d'abord parler de Cécile Weisbrot. Elle s'est souvent sentie en exil dans son pays et ceci est indéniablement lié à l'histoire de sa famille d'origine juive polonaise et au fait que la France a tant tardé à se pencher sur la période de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Elle dit qu'à Berlin, il lui est plus facile de parler, dans un cadre privé, des membres de sa famille qui ont été déportés et du silence de plomb qui régnait dans la France d'après-guerre. Son nouveau roman se passe en partie à Dresde et dans d'autres lieux.
Cécile Weisbrot attire notre attention sur la zone renaturée qui entoure Tchernobyl et sur le High Line Park à Manhattan, une voie ferrée aérienne désaffectée sous laquelle se trouvaient autrefois des abattoirs, des hangars et des marchés. La façon dont Cécile Weisbrot saisit la vie des lieux et établit entre eux des relations est tout simplement grandiose. Comment l'idée du roman a-t-elle pris forme ?
Il y a des éléments qui étaient présents au départ, c'est-à-dire pour le départ, j'avais ce passage qui s'appelle Time Passes, qui est la partie centrale de To the Lighthouse de Virginia Woolf, qui, quand je l'ai lu, enfin relu, pour préparer justement un séminaire à l'AFU, c'était, j'ai pensé à ces images que j'avais vues d'un documentaire sur Tchernobyl, où on voyait parallèlement un lieu avant la catastrophe de Tchernobyl dans les années 60, et puis après, qui se trouve donc maintenant dans la zone interdite. Et donc avant, c'était des moissonneuses-batteuses qui moissonnaient des champs de blé, et après, c'était un paysage de nature, de forêt, avec des ruisseaux. C'est ce qui m'a le plus frappé d'ailleurs, c'était qu'il y avait de l'eau. Je me demandais d'où elle venait, cette eau, par rapport aux champs de blé. Et donc, en relisant Time Passes, j'ai pensé que c'était la même chose, puisque Time Passes, ça décrit la dégradation progressive d'une maison pendant 10 ans, pendant lesquels la famille qui d'habitude venait dans cette maison, pour des raisons, entre autres la Première Guerre mondiale, n'y va plus. Et où les objets, petit à petit, prennent une sorte d'autonomie et où la nature aussi prend ses droits. Enfin, il y a ces images, par exemple, dans le texte de Woolf, de branches qui caressent les fenêtres, qui pressent, qui veulent entrer. Et dans les images qu'on connaît de la zone interdite de Tchernobyl, on voit souvent des maisons dans lesquelles il y a des branches d'arbres qui sont entrées, il y a même des arbres qui poussent. Et donc j'ai pensé que d'abord, enfin, il y a eu plusieurs étapes. Je me disais en voyant ce rapprochement que si j'étais documentariste, j'irais tourner dans la zone interdite et je donnerais en voix off le texte de Virginia Woolf sans autre commentaire. Et petit à petit, ça a fait son chemin. Donc comme je ne suis pas documentariste et que je ne risque pas de l'être, je me suis dit, mais au fond, en écrivant, peut-être je peux donner une idée de ça. Et la première impulsion, c'était dans un essai. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, mais pourquoi un essai, pourquoi pas un roman? Et du coup, comment introduire Time Passes dans un roman? Je ne peux pas dire par quelles étapes je suis passée, parce que je ne sais plus. Mais en tout cas, ou peut-être il n'y avait pas d'étape, je me suis dit, mais si je prenais un personnage de traductrice, une narratrice qui est traductrice, et qui va traduire ce passage du roman. D'abord, ça permet de... ça réunit mes deux activités, enfin, je ne sais pas comment les appeler, écrire et traduire. Donc ça permet de parler de la traduction, ça permet de parler de la promenade au phare, la façon dont ça s'est créé, enfin dont Woolf l'a conçu. Et puis j'ai un très très long compagnonnage, si je puis dire, avec Virginia Woolf, donc c'était l'occasion d'y revenir. C'est un univers qui me touche profondément. Et voilà, donc il y avait forcément Tchernobyl et Woolf. Dresde est venue... je ne sais pas trop comment, mais c'est toujours le principe que pour un roman, c'est même pas que je choisis, il y a des choses qui s'imposent. Une fois cette structure de départ, Woolf, Tchernobyl posée et la traduction, après c'est des choses qui m'ont marqué, des lieux. Je pars souvent de lieux. Et donc Dresde, il se trouve que j'ai eu la chance de pouvoir y passer un certain temps parce que j'ai eu une résidence à la TU de Dresde. Et cette ville que, comme la narratrice au début, je n'aimais pas du tout, j'avais vraiment des préjugés très forts qui se confortaient par des choses réelles. J'ai appris à la connaître mieux et à l'aimer, à aimer des lieux de Dresde, à m'approprier certains endroits. Et donc, voilà. Et puis, on ne peut pas écrire toujours sur Berlin, donc...
Clarisse lit le début du roman.
Well, we must wait for the future to show, said Mr. Banks, coming in from the terrace. Il faut attendre que l'avenir se montre, dit Mr. Banks, venant de la terrasse. Il faut attendre de voir ce que l'avenir nous réserve, dit Mr. Banks, arrivant de la terrasse. Il faut attendre que le futur se montre, dit Mr. Banks, entrant à l'intérieur depuis la terrasse. Il faut voir ce que l'avenir nous réserve, dit Mr. Banks, entrant de la terrasse. Voyons ce que l'avenir nous réserve. Attendons de voir ce que l'avenir... Eh bien, il faut attendre que l'avenir... dit Mr. Banks, arrivant de la terrasse. Il était une fois une femme qui écrivait, dans une grande ville, une capitale, écrivait la maison perdue au bord de la mer, où elle n'allait plus depuis longtemps, et le temps perdu, ou plutôt, le passage du temps. Une femme écrivain qui cherchait à saisir l'instant, disait-elle, mais aussi la trace de la présence humaine dans l'éternité.
Dans le roman Nevermore, nous avons le sentiment, en tant que lectrice, de regarder par-dessus l'épaule de la narratrice quand celle-ci travaille à la traduction d'une phrase et qu'elle nous en propose plusieurs variantes. Elle se plonge dans l'univers du texte, dans ses relations familiales compliquées et des époques révolues.
En fait, c'est peut-être paradoxal, mais c'est pas une traduction. C'est un roman sur la traduction. Et si j'avais à traduire Time Passes, ce serait encore autre chose. Parce que ça, c'est qu'un, je crois que c'est dit une ou deux fois, c'est un premier jet, si on veut. Mais ce n'est pas la traduction définitive. J'ai traduit, alors vraiment, les vagues. Il y a 3 éditions en français de ma traduction, et qu'à chaque fois, j'ai revu. Sur, quelquefois, ça me fait peur, parce que je me dis, j'ai passé ma vie à traduire les vagues, en fait. Mais la première traduction est parue en 93, et la dernière, en, je ne sais plus, 2000, enfin, il n'y a pas très longtemps, 17 ou 18. Je sais que la troisième est meilleure que les deux premières, mais je suis sûre que ça peut être encore mieux. C'est un travail inlassable. Et c'est vrai, en plus, chaque traducteur va avoir pas seulement des solutions différentes, mais on a tous notre propre lexique. Et donc, on a tous des mots qu'on emploie plus volontiers que d'autres. Et du coup, dans la traduction, ça se voit aussi. Par exemple, il y a un mot, c'est ce qui me vient à l'esprit, atmosphère ou ambiance, ça peut être la même chose, mais il y a des gens qui vont préférer atmosphère, d'autres ambiance, et puis selon les cas, ça va être l'un ou l'autre, enfin c'est infini. Mais c'est pas une traduction, il y a des gens qui m'ont demandé en France, des journalistes, alors quand est-ce qu'elle sort la traduction de... Mais elle sortira jamais. Il faut surtout pas que je traduise pour que ça reste un roman.
Dans le roman complexe Nevermore, il est question d'infimes nuances. Cécile Weisbrot dit que c'est la musique qui l'a inspirée, son caractère éphémère.
C'est l'éphémère et le temps qui passe, time passes. Et puis Virginia Woolf a fait toute, j'allais dire une théorie, mais sa théorie n'est jamais théorique, mais tout un développement, enfin je sais pas comment dire, sur l'instant. Enfin, il y a un de ses livres qui est autobiographique qui s'appelle Moments of Being, disant que la vie se compose d'instants d'être. Et puis dans les vagues aussi, il y a un passage où l'une des figures, Bernard, décrit l'instant comme un globe parfait, donc quelque chose qui se suffit à lui-même, mais qui est isolé dans le temps. Et c'est toujours cette idée que le temps est fait d'une succession d'instants.
On a du mal à s'imaginer que Moby Dick, le roman mondialement connu d'Herman Melville, ne s'est vendu qu'à 3000 exemplaires du vivant de son auteur. Melville ne pouvait pas vivre de sa plume et travaillait comme inspecteur des douanes dans le quartier où se trouve actuellement la High Line à New York. Les services de santé publique sont situés à l'endroit même où se tenait une immense usine d'incinération dans laquelle furent brûlés, en 1960, des écrits de Wilhelm Reich, le psychanalyste et chercheur en sexologie. 6 tonnes de livres et de journaux furent alors incinérées. La possession d'œuvres de Reich fut pendant des années encore interdite. Cécile Weisbrot tisse de manière subtile des éléments fragmentaires dans son récit.
La High Line, c'est aussi un lieu qui m'a frappée. J'étais à New York juste avant, j'étais en octobre 2019, et la High Line, c'est un lieu qui m'a fascinée. Et j'avais acheté là-bas un livre sur la High Line que j'ai lu, et c'était quelque chose dont j'avais envie de parler. Et voilà, je me suis dit que là, c'était l'occasion, puisqu'il y avait des villes, puisqu'il y avait des histoires de nature qui se remet en place après des événements pas forcément catastrophiques. La High Line, il n'y a pas eu de Tchernobyl, mais il y a eu petit à petit un délaissement, c'était en friche, et alors que c'était un lieu de transport pour les abattoirs qui eux aussi ont été transformés. Enfin, c'est la vie d'une ville, c'est le mouvement de la vie en fait. Bien que ça s'appelle Nevermore, il y a des choses autour de ça, du mouvement de la vie et du temps. En fait, le sujet de tous les romans, c'est le temps.
La narratrice du roman de Cécile Weisbrot s'est installée à Dresde pour pouvoir y travailler tranquillement. Elle pense que cette ville, autrefois dévastée par la guerre, est le bon endroit pour pouvoir réfléchir aux « dévastations de l'histoire » dont Virginia Woolf parle dans sa nouvelle « To the Lighthouse ». Clarisse nous lit un passage du roman « Nevermore ».
Paysage de nuit. Je regardais. Quelques rues éventrées au centre, derrière des palissades qui laissaient entrevoir le fond des tranchées, et une cavité immense qui abriterait les fondations d'un nouvel immeuble. Personne, sinon toujours les fantômes de ma vie, qui semblaient s'être donné rendez-vous ici. Pourtant, aucun d'entre eux n'y avait habité, n'y était même passé. Mais les fantômes préfèrent peut-être venir sur des lieux qu'ils n'ont pas connus, poursuivant le voyage, où ils s'attachent aux pas de ceux qu'ils suivent ou qu'ils aillent. Peut-être ne voyaient-ils rien de Dresde en m'accompagnant, peut-être ne voyaient-ils pas. Le son des cloches du Requiem du soir s'était éteint depuis longtemps. Cette nuit où je restais un moment indéterminé au bord de l'Elbe, regardant l'autre rive, perdu dans l'espace et le temps. Il me semblait être sur le point de comprendre quelque chose, mais quoi ? On se penchait sur le mystère de la ville, sa gloire passée, l'espèce de déchéance dans laquelle elle était tombée après la chute du mur et de la disparition du pays dont elle faisait partie, la République démocratique allemande. Tout demeure sous une forme ou sous une autre, et le pays disparu vivait en fantôme dans celui qui s'était recréé, comme ceux et celles qui avaient disparu avaient déposé quelque chose d'eux en moi, qui désormais non m'appartenait, mais faisait partie de moi, en même temps qu'il flottait quelque part entre la terre et l'eau, donnant vaguement forme à des espérances ou à des chagrins.
On est accompagné par des présences d'absence, si on peut dire les choses ainsi. Et le fait que, littérairement, depuis, je ne sais pas, au moins 15 ans, je travaille, si je peux exprimer les choses comme ça, avec des voix, c'est l'immatérialité. Et donc, j'en avais au début, quand j'ai commencé à écrire, et pendant un certain temps, mais petit à petit, plus de personnages. C'est des, je ne sais pas comment appeler ça, des figures ou quelquefois je dis des consciences, mais il n'y a pas de contour physique, pour ainsi dire. On est à l'intérieur de quelqu'un et les voix, qui sont un parti pris musical, on pourrait dire, mais tout ça s'amène aux fantômes d'une certaine façon ou aux esprits, c'est-à-dire à tout ce qui nous entoure et qui est insaisissable. Et par rapport à notre expérience de vie, évidemment, on est malheureusement d'un côté et puis heureusement de l'autre accompagné par ceux et celles qui ne sont plus là. Mais c'est pas évident de trouver une façon d'en parler dans un roman sans que ce soit ridicule, sans écrire un roman fantastique ou ésotérique. Il faut dire, j'ai beaucoup lu de littérature fantastique dans mon adolescence, dans ma jeunesse, et j'aime bien, peut-être que ça vient de là aussi.
La protagoniste de Neva Moa assiste à un concert et croit, l'espace d'un instant, reconnaître dans sa voisine les traits d'une amie chère disparue. Quelque chose l'appelait, dans l'obscurité de la salle, dans le mouvement des musiciens qui s'installaient.
Vraiment perdu une amie écrivain qui s'appelait Dominique Ducidour et on avait des dialogues très, très riches sur la littérature et on avait à cœur l'une et l'autre de défendre le roman, la fiction, dans des temps où vraiment, en tout cas en France, c'est beaucoup l'autofiction qui est dominante, ou alors des romans purement romanesques, mais voilà, d'essayer de défendre un roman littéraire contemporain. Comme il y a une Neue Musik, une musique savante contemporaine, il y a aussi une littérature savante, entre guillemets, contemporaine, et voilà, c'est ce qu'elle cherchait, ce que je cherche aussi à faire. La notion même de fiction semble par moments presque perdue. Et il suffit qu'un texte soit écrit à la première personne pour qu'on identifie tout de suite. Alors bien sûr qu'il y a des recoupements avec la vie de l'auteur, mais il y a un travail minimum de traduction, là aussi, de transcription, qui est tout le travail littéraire. Sinon, c'est perdu. S'il s'agit juste de transporter la vie brute dans un livre...
Neva Moa, le titre de son roman est une allusion au poème d'Edgar Allan Poe, The Raven. Dans ce poème, un homme, éprouvé par le décès de la femme qu'il aime, s'adresse à un corbeau. Quelle que soit la question qu'il lui pose, la réponse est « Neva Moa, plus jamais ». Lorsque nous avons parlé du deuil avec Cécile Weisbrot, elle a abordé les rituels liés à la mort et au deuil de la tradition juive.
Chacun doit rester à sa place d'une certaine façon. Et donc, quand quelqu'un est mort, il a d'une certaine façon un travail à faire de s'éloigner. Et la personne qui reste doit s'éloigner, elle aussi. Et les mondes doivent se... Enfin, même s'il y a des rencontres après, mais dans un premier temps... se séparer pour pouvoir se retrouver autrement après. Il y a ça, c'est ce qui m'a un petit peu inspirée dans la religion juive, où enfin, il y a l'enterrement, où toute autre cérémonie, mais plutôt l'enterrement. Puis ensuite, on revient au cimetière 30 jours après pour prier. Et après, il ne faut surtout pas revenir sur la tombe des morts pour les laisser s'éloigner, parce que il y a dans cette tradition juive le fait que quand on dit le nom dans la prière, ça appelle la personne d'une certaine façon, et donc ça l'empêche d'être tranquille là où elle est, et ça la réattire vers le monde des vivants, et il faut cette séparation d'un an pour après retrouver un autre type de, je ne sais pas, de communication ou de présence.
Qu'y a-t-il de privé, de personnel, lors de la perte d'un être ? Qu'y a-t-il de collectif ? Que peut-on partager ? Doit-on garder les souvenirs pour soi ou bien doivent-ils être partagés ? Telles sont les questions que pose Cécile Weisbrot dans son livre profond, pour lequel elle a choisi une prose ouverte.
C'est Anne Weber, une autrice qui publie dans les deux langues et qui traduit nombre d'auteurs et autrices contemporains, qui a admirablement traduit Nevermore en allemand. La traduction est parue aux éditions Waldstein, quelques semaines seulement après la sortie du livre en France. Thésée, sa vie nouvelle, de Camille de Toledo, est un livre dont nous attendons fébrilement la traduction allemande prévue pour l'automne 2022. C'est Karine Huttendörfer qui est en charge de le faire. Elle a déjà traduit des livres de Jean-Baptiste Delameau, Mathieu Riboulet, Eric Azon et d'autres auteurs et autrices francophones, tels l'écrivaine Ryoko Sekiguchi.
Ryoko Sekiguchi est née à Tokyo et vit à Paris depuis 1997. Ryoko Sekiguchi et sa traductrice Karine Huttendörfer ont remporté en septembre le prix Première pour le livre Nagori, la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter. L'Institut culturel franco-allemand de Tübingen et l'Institut français en Allemagne ont lancé ce prix en 2020. Sont sélectionnés pour concourir des livres d'auteurs et autrices français qui sont traduits pour la première fois en allemand.
Ryoko Sekiguchi raconte dans le prologue de son roman comment elle se rend dans un petit bistrot chaque fois qu'elle retourne au Japon. Elle est assise au bar et observe le vieux cuisinier qui autrefois était chef dans un grand restaurant avant d'ouvrir son bistrot dans la banlieue de Tokyo. Un jour, il lui sert un plat de légumes qui ne sont pas de la saison. Elle lui demande pourquoi il fait cela. Il lui répond alors « Mademoiselle, je suis beaucoup plus âgée que vous et je ne sais pas si je pourrai encore goûter ce légume l'année prochaine. » Cette réponse est le début d'un récit dans lequel Ryoko Sekiguchi décrit pourquoi les saisons sont divisées en 72 micro-saisons et nous fait découvrir le sens du mot « Nagori ». Pour traduire le roman, Karine Huttendörfer a dû plonger dans un univers qui lui était étranger. Nous lui avons demandé si on ne pouvait bien traduire que lorsqu'on est prêt à toujours apprendre plus et à se confronter à ses propres représentations de notre place dans le monde.
Je ne suis pas très à l'aise avec ce terme congénial, mais si on est d'accord que l'on utilise pour exprimer que la traduction est aussi cohérente et créative que l'original, alors oui. Se permettre d'être inventif, cela veut dire qu'en traduisant, on écrit, tout comme l'auteur ou l'autrice. Pour moi, c'est exactement ce qui est fascinant dans la traduction. Qu'on apprend tellement de choses nouvelles, qu'on découvre des mondes jusque-là inconnus et qu'on remet en question ses propres concepts et imaginations. Et il va de soi qu'on change au cours d'une occupation si intense avec un texte. Le concept Nagori est difficilement à saisir. Il est très complexe, tout justement parce qu'au Japon, il touche presque tous les aspects de la vie. Il représente surtout la trace, la présence perceptible d'une chose ou d'une personne, mais avant tout d'une saison. Une saison qui nous a déjà quittés ou qui est en train de disparaître. Et cette disparition contient toujours et la nostalgie du départ et en même temps déjà l'aspiration au retour et donc l'espoir d'un nouveau départ. Mais on appelle également Nagori les effets négatifs d'un événement. On parle par exemple d'une agorie d'une maladie ou d'une agorie d'un tremblement de terre. En sens large, il peut désigner ce qui reste. Comme un enfant rappelle par exemple ses parents décédés à tous ceux qui les ont connus au temps de leur vie, ou comme ces quelques fleurs et fruits restés sur l'arbre à la fin de la saison. Il peut faire référence au moment d'une séparation ou même à celui de la mort. Et il évoque toujours la douleur des adieux.
En 2014, Ryoko Sekiguchi a séjourné à la Villa Médicis à Rome pendant un an. À la fin de son séjour, elle a préparé un très grand banquet auquel elle a convié tous les autres pensionnaires. Ce banquet honorait les quatre saisons qu'elle venait de traverser. Le menu de ce dîner aux 100 ingrédients se trouve dans les dernières pages du livre. Replace-t-elle cette expérience particulière, partagée avec les pensionnaires de la Villa Médicis, dans un plus grand contexte ?
Nagori me semble être vraiment une révélation du monde qui passe par le palais. Sekiguchi se consacre au thème essentiel de la vie, c'est-à-dire à la plénitude dans l'ici et maintenant, à la corporalité, au devenir et au dépassement, l'écoulement du temps. Le grand contexte est sa méditation sur le temps et le caractère éphémère de la vie, sur la temporalité cyclique, des saisons et des plantes toutes deux récurrentes, et la temporalité linéaire, qui mène inévitablement à la mort à laquelle nous tous sommes soumis. Il est vraiment fascinant de voir comment elle décrit les saisons et les aliments et les relie à nos corps et à nos états d'esprit, états d'âme. Elle énumère les 100 et ce qui était vraiment extraordinaire pour les pensionnaires de la Villa Médicis, c'est qu'ils n'ont dû qu'une année de vie de villa, c'est-à-dire qu'ils n'ont vécu le cycle des quatre saisons qu'une seule fois, toujours conscients de cette finalité qui a rendu leur expérience si intense.
Lorsque des traducteurs et des traductrices parlent de leur travail, on les entend souvent dire que la concentration sur le texte et la mélodie leur demande un grand effort physique. Comment Karine Uttendorf a vécu pendant des mois, voire des années, avec un texte?
Il est certain que traduire est aussi un processus physique intense, un vrai effort physique. La traduction de Nagori, qui est écrite avec tant d'élégance et de légèreté, m'a mis dans un état différent, plus léger. J'étais plus sensible, plus attentif à mon entourage, mais pas du tout dans un sens ésotérique, tout à fait terre-à-terre, concret. Pour donner un exemple, j'ai mangé de manière plus concentrée, j'ai perçu les plantes, les aliments et aussi moi-même de manière plus consciente. En traduisant la saga familiale de Jean-Baptiste Delamo, Règne animal, par contre, je me suis sentie lourde. En fait, le livre traite de la transmission de la violence. J'ai toujours porté cette histoire sur et avec moi. Et elle m'a aussi beaucoup éprouvée physiquement. Vivre avec et en partie dans un texte est une relation intense, intime même. En fait, au moment de la traduction, c'est toujours la relation la plus intense pour moi. En ce moment, lorsque je travaille sur deux œuvres très différentes en même temps, mais par section, c'est-à-dire que je vis dans une sorte de ménage à trois, je le remarque tout particulièrement parce que les deux demandent et ils exigent en réalité l'exclusivité. Ainsi, je travaille sur le roman magnifique de Camille de Toledo, Tessé sa vie nouvelle, que vous avez déjà présenté, et sur une grande œuvre anthropologique littéraire. Avec Tim Tschaschkalik, je traduis La chute du ciel, Der Sturz des Himmels, de David Kopenawa et Bruce Albert pour Matthes und Seitz Berlin. Au-delà du défi d'avoir à inventer pour la traduction en allemand une langue totalement singulière et nouvelle pour rendre les discours du chaman Yanomami David Kopenawa, elle nous impose d'autres exigences en tant que traducteur. À savoir des mois de lecture anthropologique pour nous familiariser avec le sujet, la traduction et la vérification d'un appareil appendant de notes, de glossaires sur la langue, la flore et la situation politique, une énorme bibliographie, en d'autres termes, un engagement qui dure en réalité des années, bien au-delà de la traduction textuelle. Nous planifions même déjà une exposition et cherchons des partenaires, par exemple dans les musées, pour la présentation du livre.
Qu'est-ce que Karin Uttendörfer aime particulièrement dans le métier de traductrice ?
Je suis vraiment inspirée par le fait que j'apprends constamment de nouvelles choses, que je découvre des mondes qui me sont inconnus. Mais je pense que c'est certainement cette sensation de vécu intense et existentielle que je vis dans le travail, dans l'échange et dans la relation avec le texte que j'aime le plus. Je passe la plupart de mon temps de vie à traduire de la littérature. Et en retour, cela me redonne une intensité particulière. En tant que traductrice, on me confie le plus important, le plus ingénieux, le meilleur de l'auteur et, ou de l'autrice en question. Et c'est à chaque fois un grand défi, une grande aventure de recréer cette voix littéraire et cette vision en allemand et de la rendre tout aussi urgente, audible, perceptible. En traduisant, je suis toujours consciente que l'on peut aussi échouer. Le risque est toujours présent. Et c'est pour cela l'intensité aussi. J'aime aussi beaucoup pouvoir vivre et essayer des choses dans le texte que je ne vis ou ne veux nécessairement pas vivre dans la vie réelle. Et puis, je crois au sens de ce que je fais, à la nécessité et à la relevance de la littérature en général et de la littérature étrangère traduite en particulier. Elle peut nous toucher, nous émouvoir, nous transformer comme seulement peu d'autres choses.
Cet hiver, Karin Uttendörfer est invitée par le Fonds allemand pour la traduction à donner des cours à l'Université de la Sarre. Elle abordera le sujet de la transmission mondiale des cultures et placera les discours au blanc du chaman Yanomami Davy Kopenawa au centre de son enseignement. À suivre. Dans notre prochain épisode, nous parlerons du nouveau livre de notre collègue Pascal Hugues, École de filles. D'ici là, nous vous souhaitons de belles lectures. C'était le 10e épisode de Litteramour, en compagnie de Clarisse Cosset et de
Sigrid Brinkmann.